C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personne à Jean Personne par Charles Danzig. Auteur, Henri de Toulouse-Lautrec, 1864-1901. Peintre, affichiste, français, atteint d'une infirmité physique, hétérosexuel. Œuvres, divers tableaux, illustrations et affiches. Personnages, les femmes inconnues des tableaux de Toulouse-Lautrec. Dans un livre singulier et affectueux, un Henri de Toulouse-Lautrec, le collectionneur et critique d'art Thaddée Nathanson rapporte que Lautrec a été élève de Mallarmé. Cela tend à montrer que l'art éveille l'art, quel que soit le mode de cet art, littérature, peinture, musique ou autre. Quand on a un tempérament artistique, rencontrer un art proche de notre sensibilité met celle-ci en marge. J'exagère bien sûr, car Mallarmé n'enseignait pas la poésie mais l'anglais, il n'empêche, lui ou un autre, un artiste a dû éveiller l'art de Lautrec. Goya ou Tamaro ? En tout cas, Nathanson précise que et le professeur et l'élève avaient une passion commune pour les chapeaux haute forme. Ni l'un ni l'autre n'ont écrit ou peint à ce sujet. La passion n'est pas l'art. Nathanson appelle Lautrec le petit tyran, qu'apparemment il était, et le peintre des narines, ce qui semble très intelligent. Quand on quittait Lautrec après dîner ou encore plus tard, on le laissait parfois si triste que, je cite, « Une des dames insista très longuement pour qu'il promît de venir déjeuner chez elle le lendemain et ne consentit à le laisser que lorsqu'il se fut engagé, non pas en riant, sérieusement tout à fait, à être exact, faisant entendre qu'une surprise l'attendait. « Que voulez-vous » répondit-elle en route à nos questions. Je l'avais vu si triste, si mortellement triste. J'avais peur de le laisser là tout seul. Je sentais qu'il fallait à tout prix lui donner une raison de durer jusqu'à demain midi. Et c'est déchirant. Les femmes de Lautrec sont graves. Ce n'est pas parce qu'il peignait des prostituées, entre autres, qu'il était pornographe. La pornographie était ailleurs, dans la peinture officielle. La Vénus de Cabanel, achetée par Napoléon III, se vautre blafardement sur un coquillage, exhibant son ventre et ses seins de la manière la plus lascive, mais voilà, Cabanel l'avait appelée Vénus et l'empereur l'avait achetée. Alors c'était convenable. Aucune femme de Lautrec ne se trouve dans une situation scabreuse, ni même en train de rire, comme dans je ne sais quel Boldini. Les femmes de Lautrec ne servent ni à la distraction, ni à la consommation des hommes. Qui sont les dames de Toulouse-Lautrec? Pour en parler, je reçois Danielle Devinck, directrice du musée Toulouse-Lautrec à Albi et co-commissaire avec Stéphane Guégan de l'exposition Toulouse-Lautrec résolument moderne au Grand Palais à Paris. Danielle Devinck, quels sont les types de femmes chez Toulouse-Lautrec? Il y a d'abord les femmes célèbres dont je ne voudrais pas que nous parlions dans cette émission parce qu'elles ne sont pas des personnages en tant que telles, elles sont des personnes. Et c'est pour ça que je voudrais que nous nous intéressions aux anonymes, celles que nous pouvons précisément considérer comme des personnages parce qu'elles sont détachées des personnes que nous ne connaissons pas. Il semble que Toulouse-Lautrec ne peigne aucune femme de son milieu natal, qui est l'aristocratie, ni de bourgeoise. Les femmes de Toulouse-Lautrec sont des artistes, des ouvrières ou des prostituées. Est-ce que je me trompe?
C'est à nuancer, puisque je pense que le premier modèle et celui auquel il sera d'ailleurs fidèle à maintes reprises, c'est sa mère, la comtesse Adèle de Toulouse-Lautrec. Et c'est une femme qui a un rôle extrêmement important dans sa vie, dont il fait des portraits qui sont extrêmement sensibles, où on sent l'admiration teintée de respect du fils pour cette femme qui va finalement le soutenir jusqu'à sa mort, puisque c'est auprès d'elle qu'il se réfugie en 1901, dans le château qui lui appartient à Mallarmé, donc, pour rendre son dernier souffle.
Car il faut dire pour les gens, probablement très peu nombreux qui ne le connaissaient pas, que, comme je l'ai évoqué, Toulouse-Lautrec avait une malformation.
Alors, Henri de Toulouse-Lautrec a une maladie congénitale qui se révèle à l'adolescence, qui entraîne effectivement deux fractures successives de la jambe droite et de la jambe gauche, et donc un handicap à la marche, un arrêt de sa croissance. C'est évidemment à l'époque quelque chose que l'on ne diagnostique pas aussi clairement qu'aujourd'hui, bien que les lettres de son père soient très touchantes, puisqu'il dit à la fin de la vie de son fils, ce malheureux enfant né issu d'un mariage qui n'aurait pas dû être.
Issu d'un mariage qui n'aurait pas dû être?
Il a sûrement conscience de ce mariage consanguin. Le père et la mère de Toulouse-Lautrec sont cousins germains.
Et il a subi d'ailleurs des traitements enfants qui étaient des tortures.
On peut imaginer que c'était des tortures. On entend parler de la brosse électrique, il y avait aussi des extensions tirées sur ses jambes. Enfin, je pense qu'il a effectivement subi des traitements particulièrement douloureux. Il semble, d'après les témoignages de ses proches, même de ses amis, que ça ne l'est que passagèrement découragé et que finalement il gardait cet humour qui était déjà le sien enfant et qu'il continue à avoir tout au long de sa vie.
Donc revenons à ces personnages de femmes inconnues, les plus nombreuses et les plus peut-être les plus célèbres auprès du public, sont les prostituées. Il faut dire que le personnage de la prostituée était devenu à la mode probablement un peu avant grâce à la littérature avec la maison Tellier de Maupassant et la fille Elisa des frères Goncourt, entre autres.
Bien évidemment, d'ailleurs, Henri de Toulouse-Lautrec a eu un temps la tentation et l'envie d'illustrer l'ouvrage de Goncourt, la fille Elisa. Edmond de Goncourt n'appréciait absolument pas Toulouse-Lautrec.
Ah non.
Et évidemment n'a pas accepté son travail. Par chance, il reste ses essais aquarellés sur un ouvrage d'ailleurs que lui avait confié Maurice Joyand, son ami d'enfance qu'il avait rencontré là aussi au lycée, tout comme Mallarmé. Et cet ouvrage est dans l'exposition du Grand Palais puisqu'il a été acquis par la Bibliothèque nationale de France voici quelques années.
Alors, l'intéressant est que, sauf erreur là aussi, aucune des prostituées n'est représentée dans telle ou telle situation de son métier. C'est-à-dire, on ne voit pas les prostituées ni en train de faire le trottoir. Enfin, d'abord, il n'y avait pas de trottoir, elles étaient dans des maisons closes. Mais on ne les voit pas en train de faire l'amour, on ne les voit pas. Les unes jouent aux cartes, une autre reçoit un blanchisseur. Enfin, ça n'est pas du tout comme des situations sexuelles.
L'approche de Toulouse-Lautrec ne montre effectivement qu'une partie de cette économie de la nuit parisienne qu'est le monde de la prostitution. Et cette partie exclut pratiquement l'homme. L'homme est quand même quelque part. Il est parfois tout simplement voyeur. On voit son reflet dans un miroir où il vient de partir. La scène, c'est avant ou après l'acte physique, puisque on voit son chapeau, par exemple, son bureau-reflet qui est posé sur des vêtements féminins. On voit aussi la femme qui rattache son corset. Donc, on devine ce qui vient de se passer. Mais pour autant, effectivement, les images de Lautrec ne sont ni des images lestes, ni érotiques, ni pornographiques. Nous ne sommes pas dans cet univers.
Il faut dire que lui, il y allait beaucoup, enfin, je ne veux pas dire pour consommer, mais même pour y travailler, il y passait du temps.
Toulouse-Lautrec était un viveur, un jouisseur, et il va dans les maisons closes, bien évidemment, à la fois pour des raisons personnelles, mais aussi parce que, dit-il, ces femmes évoluent devant lui librement et de façon plus naturelle que des modèles d'atelier.
On ne sait pas si aucune l'a jamais rejeté ou aucune des femmes a trouvé scandaleux qu'on les peigne comme ça. Est-ce qu'on sait d'abord s'il les peignait sur le motif, si je puis dire, ou s'il prenait des notes et qu'il peignait ensuite?
Évidemment les deux, puisque en maison close, il prenait des notes et il repérait des silhouettes, des attitudes, des postures ou éventuellement des scènes qui l'intéressaient. Mais ensuite, il travaillait en atelier et notamment un certain nombre des œuvres majeures de cette série sur les maisons closes qui, grosso modo, se passe dans les cinq premières années qui suivent 1890, donc 1890-1896. Une grande partie des tableaux majeurs sont des tableaux d'atelier. Mais il arrivait aussi que des prostituées lui rendent visite dans son atelier. Il en a invité, notamment il a invité l'une d'entre elles, qui là n'est plus anonyme puisqu'on connaît son prénom. Mm-hmm. Elle s'appelait Mireille. Et Mireille, malheureusement, et il le raconte avec beaucoup de tristesse à Maurice Joyand, a été convaincue de partir en Argentine, ce qui était parfois le cas de certaines de ces femmes de maison. Et Lautrec en était très triste parce qu'il estimait que sans doute elle aurait un avenir un peu difficile à Buenos Aires. Et c'est très amusant parce que cela donnait lieu à une nouvelle de Cortázar qui raconte l'histoire de cette Mireille qui aurait effectivement fini un petit peu difficilement. Et ça a donné, dans la nouvelle de Cortázar en tout cas, une image, une chanson pour le tango.
Alors, il a longtemps caché au public, en tout cas, qu'il peignait dans les maisons closes. Est-ce que vous pensez que c'était pour éviter l'ambiguïté? Et d'autre part, dites-moi s'il est vrai que dans une exposition personnelle en 1896, il a fait suspendre les tableaux de bordel dans une pièce à part.
C'est ce que raconte Maurice Joyand. Il n'est d'ailleurs pas le seul à le raconter. Henri de Toulouse-Lautrec aurait gardé la clé de cette pièce et ne l'ouvrait qu'aux personnes qu'il jugeait bon de pouvoir y donner accès. Y faire accéder. C'est d'ailleurs assez difficile à comprendre parce que par ailleurs c'est un homme qui, comme tout grand aristocrate d'ailleurs, échappe à toute convention, est parfaitement libre et ne craint finalement aucune attitude et ne s'inscrit dans aucun code social. Donc c'est un petit peu difficile à comprendre. Pour autant, peut-être avait-il une image de son propre travail qu'il voulait absolument situer à un niveau autre que celui, effectivement, de la peinture de maisons closes. C'est surprenant, parce qu'on sait très bien que ce grand tableau dont vous parliez, qui est au salon de la rue des Moulins, où l'on voit effectivement des femmes assises sur les banquettes en train de regarder leur compagne, autre pensionnaire, faisant la queue pour l'examen médical, ce grand tableau, il l'a vraiment conçu au format d'une peinture d'histoire. Donc il revendique sa thématique, y compris celle des maisons closes, comme étant aussi importante que celle des œuvres classiques et des peintures d'histoire.
Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il y a une part d'ironie dans cette petite anecdote, mais après tout peut-être révélatrice, de Toulouse-Lautrec, donc montrant les tableaux dans une pièce à part? Car moi, ce qui m'a frappé, c'est que la pièce qui était à part était un petit salon tendu de velours fraise avec des meubles jaunes. Donc il y a une forme d'ostentation aussi et de style presque un peu bordel dans cette pièce-là. Est-ce qu'il n'y a pas au fond du marketing dans ce...
Alors, en tout cas, on peut dire qu'Henri de Toulouse-Lautrec est très, très sensible à la façon dont on accroche ses œuvres. Ça, on le sait. On sait qu'il est intéressé par la façon dont ses toiles sont encadrées. Et il est vraiment présent au moment des accrochages. Il veut exposer, il veut montrer son travail. Et pour lui, c'est une chose importante. Qu'il ait pu choisir ce salon pour les œuvres de maison close, pourquoi pas?
Est-ce que ces tableaux, à un moment donné, ont fait plus ou moins scandale, même s'ils étaient montrés séparément? Et d'autre part, est-ce que Toulouse-Lautrec a été immédiatement célèbre ou pas?
Il est célèbre, en tout cas dans les milieux d'avant-garde, bien évidemment. C'est quand même, dès 1888, un artiste qui est invité au Salon des Cent à Bruxelles, qui est justement ce salon où se retrouve toute l'avant-garde européenne. C'est une véritable reconnaissance. Il figure aussi au Salon des Indépendants, à Paris, de façon très régulière. Autrement dit, les artistes, par exemple les Nabis et tout ce cercle d'avant-garde qui est le sien, dans lequel il évolue, reconnaissent son talent et un certain nombre de critiques. Je pense à Arsène Alexandre, je pense à Geoffrey, un certain nombre, Félix Fénéon, bien évidemment, souligne son talent. En revanche, il est rejeté par les milieux officiels. C'est ce qui explique qu'à sa mort en 1901, quand les parents du peintre décident de proposer tout ce qui se trouve dans l'atelier au musée parisien, cette proposition de don est refusée. Et c'est à la suite de ce refus, et malgré des tentatives pour revenir vers les responsables du conseil artistique, avec en face de Maurice Joyand qui faisait ses démarches, un ostracisme absolument total des milieux officiels. C'est donc à la suite de ces refus répétés que la proposition de don est faite à la ville d'Albi, qui est la ville natale du peintre, d'où le musée qui s'y trouve actuellement.
Et que vous dirigez. Alors, à la fin de sa vie, est-ce qu'il y a un rapport entre les deux choses? Je ne sais pas. Il est, alors que Toulouse-Lautrec est à peu près paralysé des jambes, il s'intéresse de plus en plus à des femmes de cirque, avec dans la pleine liberté de leur mouvement. On voit une écuyère sur un cheval qui se cambre, une équilibriste. Ça, c'est un nouveau centre d'intérêt où il l'avait toujours eu.
Le cirque a toujours fait partie de cette thématique. Il est emmené au cirque alors qu'il est encore un enfant par René Prinstot, qui est son premier maître. Son père également l'emmène au cirque. Finalement, le lien entre le cirque et Lautrec, c'est le cheval. Et son milieu familial a cette mythologie du cheval, de la chasse, de la vie au grand air. Et Lautrec retrouve au cirque, effectivement, cette importance et cet intérêt du cheval. Et le premier tableau où véritablement s'impose son écriture avec toute sa modernité, c'est une scène de cirque, cette scène de cirque au cirque Fernando avec l'écuyère qui figure dans l'exposition du Grand Palais et qui est une œuvre absolument magistrale.
Et qui montre
une écuyère sur un cheval qui est en raccourci avec une silhouette d'une puissance extrême. C'est à la fois bien évidemment déjà une écriture très synthétique, assez linéaire, avec l'influence du japonisme qui est très évidente dans l'œuvre, mais également cette façon qu'a Lautrec de capter et de restituer la vitesse et le mouvement.
Alors il y a aussi un type de femme chez Toulouse-Lautrec qui revient relativement fréquemment, ce sont les ouvrières. Je crois que pour certaines d'entre eux, il y a eu un modèle. Donc on peut pas dire que ça soit des sujets de reportage. Il n'est pas sorti dans la rue pour croquer une blanchisseuse ou une ouvrière.
C'est un petit peu plus, c'est en deux temps, puisqu'il voit des femmes, notamment à Montmartre, et on dit très souvent que la modernité de Toulouse-Lautrec commence par les femmes dans ce quartier de Montmartre, puisque ce sont ces portraits de femmes.
Pardon de vous interrompre, où habitait-il ?
Il habitait donc d'abord chez sa mère et effectivement dans les beaux quartiers et pas très loin du Faubourg Saint-Honoré. Et puis il va s'installer à Montmartre. Alors il aura plusieurs adresses parce qu'il va d'abord être logé chez un ami, le docteur Bourges. Et quand il s'installe lui-même dans son atelier, il est rue Caulaincourt. C'est un atelier qui fait l'angle de la rue Caulaincourt et de la rue Tourlac.
Et donc c'est là qu'il a... croisé ou que s'est éveillé son intérêt pour les ouvriers.
C'est en sortant de l'atelier de Cormont, puisque l'atelier de Cormont est situé à Montmartre, et en sortant, eh bien, il voit ces petits personnages qui font la vie du quartier. C'est un quartier où les loyers ne sont pas très élevés, il y a une population interlope, et donc il croise effectivement des ouvrières, des blanchisseuses, et il croise une femme notamment qui s'appelle Carmen, qui a une chevelure rousse. Il est fasciné par les femmes rousses, et cela va être pendant longtemps un de ses premier modèle, et il dit à ses amis, oh, j'aimerais bien qu'elle pose pour moi, elle a l'air carne. C'est vous dire ce qui l'intéresse, c'est effectivement la force de caractère qu'il ressent dans le visage de cette femme qui est sans artifice, qui est totalement naturelle, mais autant il va la représenter avec une approche qui est presque celle d'un photographe, c'est-à-dire qu'il tourne autour de son modèle, il la montre de face, de profil, de dos. Il va ensuite se servir de cette image pour les scènes naturalistes qu'il crée, c'est-à-dire que ce sont finalement là encore des prises de notes, même si ce sont des tableaux achevés quand il montre Carmen, et il reconstitue une scène naturaliste en la faisant jouer un personnage, comme il le fait avec Suzanne Valadon.
Alors, ce qui est très frappant, c'est que ces ouvrières pourraient être... contemporaine. Au fond, rien ne se démode plus que le luxe et les femmes du monde. On rencontrerait ces espèces de cacatoès endiamantées aujourd'hui, on les mettrait aux eaux, alors que nous pourrions parler à ces ouvrières.
Elles sont en tout cas, comme je le disais en parlant de Carmen, absolument naturelles, absolument sans artifice. Et c'est sûrement ce qui intéresse Lautrec, parce qu'il est avant tout à la recherche de l'intériorité et de la vérité de la personne qui est en face de lui, derrière le masque social.
Nous allons maintenant entendre une des femmes authentiques peintes par Toulouse-Lautrec, Yvette Guilbert. Elle chante un personnage que Toulouse-Lautrec aurait pu peindre, Madame Arthur. C'est une chanson de 1892.
Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants, chacun voulait être aimé d'elle, chacun la courtisait. Pourquoi ? C'est que, sans être vraiment belle, elle avait un je ne sais quoi. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Sa taille était très ordinaire, ses yeux petits, mais séduisants. Son nez retroussé, sa voix claire, ses pieds charmants et frétillants. Bref, en regardant sa figure, rien ne vous donnait de l'émoi. Mais par derrière, sa tournure promettait, oh, je ne sais quoi, Madame Arthur, c'est une femme.
Daniel Devin, pour en revenir aux femmes de Toulouse-Lautrec, une chose très frappante dans les portraits qu'il en donne est qu'elles sont, je crois qu'on peut le dire, et quelle que soit dans la situation, qu'elles soient prostituées, cuillères, ouvrières, elles sont graves. Il y a un air de gravité, elle ne sourit jamais, c'est pas une sculpture de Carpeaux où la femme est toute d'en dehors, ça n'est pas allègre. Toutes ces femmes sont graves.
Elles sont vraies, elles sont authentiques. Il ne cherche pas à montrer des femmes qui posent, il cherche au contraire à montrer des femmes exactement comme s'il les surprenait sans qu'elles s'en rendent compte. Et c'est ce qui explique, je pense, effectivement, cette recherche d'un visage qui n'a pas un sourire contraint et qui n'a pas du tout... Mais les portraits d'hommes sont du même ordre, d'ailleurs. Hein. Les hommes comme les femmes ont l'air d'être surpris par un photographe, sans qu'ils sachent qu'ils sont effectivement photographiés ou peints.
Oui, mais pourtant... Vous êtes en train de me sourire et une posture naturelle peut être le sourire. Donc ça veut dire que quand même Toulouse-Lautrec a choisi ça.
Il choisit bien évidemment ce qui lui semble plus proche de la réalité de son modèle et ce qui lui semble exprimer le plus le tempérament ou la profondeur de son modèle.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il choisit aussi une chose proche de ce qu'il est lui ? Est-ce que tous ces tableaux si vifs de Toulouse-Lautrec ne cachent pas aussi la tristesse du peintre ?
En arrière-fond peut-être, c'est aussi quelqu'un qui est très joyeux en apparence, qui chante beaucoup, qui plaisante beaucoup, qui aime la vie, qui est un jouisseur. Et je pense qu'il y a, mais comme en tout être humain, une ambiguïté évidente dans sa démarche. Cette gravité, vous avez raison, on la retrouve, y compris dans un personnage comme celui de Jeanne Avril. Vous avez ces deux images d'une femme qui est capable d'une danse quasi névrotique, et en même temps, cette femme élégante qui sort d'une salle de spectacle après s'être produite et qui a l'air d'une plongée dans une mélancolie profonde. Et on sait combien Lautrec aimait Jeanne Avril. Donc peut-être a-t-il aussi trouvé chez elle cette ambiguïté qui est la sienne.
Vous parliez d'un jouisseur. Il y a une réitération d'un motif dans plusieurs tableaux de Lautrec qui semble montrer ce à quoi il s'intéressait. Il y a beaucoup de femmes qui sont en bas noir avec le haut des cuisses nues. On sent bien que ça, c'est son motif.
Oui, on peut effectivement voir cette note érotique dans un certain nombre d'œuvres, y compris dans le grand tableau au salon de la rue des Moulins, où finalement cette diagonale d'une jambe gainée de noir nous permet de rentrer dans l'œuvre et d'arriver dans cet univers clos du salon de la rue des Moulins.
Alors il y a aussi dans beaucoup de tableaux de femmes harassées, il y a aussi beaucoup de femmes qui ont l'air fatiguées, harassées, d'autres qui se reposent, d'autres qui font leur toilette, et la chose frappante que dans tous ces cas-là, elles n'ont pas de tête. Soit qu'elles n'apparaissent pas du tout dans le tableau parce qu'elles sont peintes de dos, soit que leur chevelure dissimule le visage. On dirait qu'il ne peint qu'un corps sans visage.
Un corps exprime aussi la réalité d'un individu. Lautrec est un peintre qui fait beaucoup d'images de personnages de dos. Et c'est là aussi l'une de ses caractéristiques, de s'intéresser véritablement à la posture, à la gestuelle, autant qu'à la physionomie ou qu'au visage. Et je pense que c'est vraiment cette recherche qui est la sienne. C'est peut-être aussi l'un des signes qui caractérise son art. On retrouve au demeurant des choses qui ont déjà été travaillées par Degas à ce niveau-là, bien sûr. Mais c'est vrai que les toiles, les portraits de femmes de dos, notamment chez Lautrec, sont particulièrement saisissants.
Il n'y a pas la méchanceté de Degas.
Il n'y a pas de misogynie. Il y a un respect de la femme, qu'elle soit prostituée ou que ce soit une femme du meilleur monde, puisqu'il peint quand même aussi Mademoiselle Dio, il peint Messiaen à Tanson. Il y a une tendresse même pour certains personnages, y compris lorsqu'il montre deux femmes dans un lit, dans ses tableaux de scènes de lesbianisme. Il y a une forme de tendresse et en tout cas un respect pour l'individu qui est en face de lui.
À propos du lesbianisme, il aurait dit « c'est supérieur à tout, rien ne peut rivaliser avec quelque chose d'aussi simple ».
On lui prête effectivement cette phrase. Il est toujours tenté par les marges.
Alors, nous parlions des éléments du corps. Vous parliez tout à l'heure, dans la première partie de l'émission, des femmes rousses. Je crois qu'on peut dire qu'un des signes distinctifs de la population Toulouse-Lautrecienne, en quelque sorte, sont le nez retroussé et la chevelure rousse.
Alors, la chevelure rousse, à coup sûr.
Il a d'ailleurs, de manière plus générale, et c'est là où peut-être la contemporanéité intervient, c'est qu'il peint des femmes en cheveux, comme disait ma grand-mère. Et ça, c'était très nouveau, parce que les femmes portaient des chapeaux, des coiffures, et il aime montrer les femmes en cheveux, c'est-à-dire les cheveux à l'air.
De son temps, c'est un marqueur social. Bien évidemment, les femmes du meilleur monde sortaient avec un chapeau, mais il aime aussi énormément tout ce qui est atour féminin, et beaucoup de ces femmes qui ont un chapeau avec des plumes le retiennent. Il aime les gants, il aime les chapeaux, il peint les ombrelles.
Il y a une chose très frappante dans ces personnages de femmes anonymes de Toulouse-Lautrec, c'est que dans un tableau au moins, et je pense à la magnifique buveuse d'absinthe, qui est une femme assise à une table avec un regard très très triste, et qui donc boit de l'absinthe, c'est qu'il nous montre ça aussi, et que Je crois qu'il y a eu à la même période un tableau de Bonnard qui s'appelle Au café, qui a le même motif, mais c'est quelque chose là aussi de très nouveau et de très contemporain. Avant, l'alcool ou le vin dans la peinture française, c'était, disons, le déjeuner d'huître de 2-3 à Chantilly, où tout ça est pimpant et gai. Et là, tout d'un coup, on a quelque chose de presque social, de la tristesse, encore une fois, de l'alcool.
On a une scène qui est populiste, parce que tout simplement, Henri de Toulouse-Lautrec est frappé quand il arrive à Paris par l'intérêt du naturalisme rural dans les premiers tableaux qu'il va créer lorsqu'il est en vacances ou en villégiature dans les propriétés familiales, en montrant des ouvriers ruraux, mais naturalisme urbain également. Et ça n'est pas pour rien qu'il apprécie la littérature de Zola. Il est aussi complètement plongé dans cette fin de siècle 19e, où bouillonnent de nombreux courants, le naturalisme dont je viens de parler, mais il va aussi côtoyer l'impressionnisme, il va côtoyer le cloisonnisme. Tout cela, il le voit, il s'en imprègne, il s'en empare, et puis il s'en éloigne pour créer sa propre écriture.
Il y a, parmi toutes ces femmes inconnues de Toulouse-Lautrec, un personnage assez touchant qui me fait un peu penser à la poésie de Pessoa. C'est un personnage de femme bourgeoise sur un bateau, dans un transat rayé, coiffé d'un canotier, et c'est la mystérieuse passagère de la cabine 54. Dites-moi qui c'est.
Elle est mystérieuse et elle le reste. Nous ne connaissons pas son nom. Nous savons simplement par l'ami qui accompagnait Lautrec sur ce bateau, puisque Lautrec avait cette habitude assez curieuse lorsqu'il se rendait chaque été à Bordeaux et puis ensuite donc dans la propriété de sa mère, le château de Malromé étant à côté de Bordeaux. Il prenait le bateau au Havre et il descendait donc en bateau jusqu'à Bordeaux. Et cette année-là, il est accompagné de Maurice Guibert, son ami, qui est par ailleurs photographe. Et il est séduit par cette femme. Nous ne saurons jamais de qui il s'agissait. On sait tout au plus qu'elle devait rejoindre son mari qui était à Dakar. Et donc Lautrec refuse de descendre à Bordeaux et veut continuer. Et Maurice Guibert a toutes les difficultés du monde à le convaincre de descendre à Lisbonne. Et restera cette œuvre remarquable et très élégante qu'il utilisera ensuite pour une affiche exposée au Salon de la Plume. En fait, il possède les femmes qui le séduisent à travers son art.
Daniel Devinck, que vous ont appris les personnages des femmes de Toulouse-Lautrec?
C'est moins peut-être les personnages eux-mêmes que l'écriture du peintre qui m'intéresse. Je maintiens et je dis depuis de nombreuses années qu'Henri de Toulouse-Lautrec ouvre la voie au XXe siècle. Et notamment, ça n'est pas par hasard si quand Picasso arrive à Paris, il regarde beaucoup le travail de Lautrec. Ce thème de la buveuse, Picasso va aussi le travailler dans des images qui sont d'ailleurs assez proches de celles de Lautrec au début. Il va aussi bien sûr travailler le sujet du cirque. On trouve aussi d'autres artistes, notamment tous les expressionnistes qui ont eu un regard extrêmement vif et attentif au travail de Lautrec. Je pense par exemple à des rapprochements avec Egon Schiele, à Rouault bien évidemment sur les maisons closes par rapport à la thématique dont on parlait tout à l'heure, mais aussi on sait que Munch, quand il vient à Paris, voit avec intérêt notamment les scènes de maisons closes de Lautrec. Et je crois que vraiment ce qui est important, c'est que Lautrec n'est pas simplement l'artiste de la culture montmartroise, même si c'est une thématique qui l'aide à s'éloigner de l'académisme qui est le fruit de ses premières années de formation. Il est avant tout quelqu'un qui a une écriture d'une grande modernité.
C'était Personnage en personne, le 97e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage du Petit Prince, créé par Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince.
Comme si j'étais assis là-haut, paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, attaché de production Meryl Moneghetti, prise de son Olivier Dupré.
De ma vie, le paradis acquis.
Dans un instant, Victor Massé de l'Épinay et le rayon BD.
Un grand jeudi, tous les jours, paradis. De l'autre côté de la rue.